Écoutez, révisez, le temps d'un confinement à l'heure de la grande table, France Culture fait résonner dans la voix de grands comédiens les mots de grands écrivains et vous invite à lire ou relire des classiques du XVIe siècle à aujourd'hui, des romans, des pièces de théâtre ou des poèmes signés Apollinaire, Molière, Stendhal ou encore Beckett. Radio allumée, livre ouvert, réviser ces œuvres de notre patrimoine littéraire au programme du bac de français, analysé pour vous par des professeurs et inspecteurs généraux d'éducation nationale. Aujourd'hui, Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, épisode 2, lu par Robin Renucci.
Écoutez, révisez, Olivia Gesbert.
On vous en parlait déjà dans un précédent numéro d'Écoutez, révisez. On va aujourd'hui analyser et vous présenter un autre extrait de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Le roman paraît en mars 1678 de façon anonyme. L'auteur craint le bruit que ne manqueront pas de faire ses pages qui évoquent implicitement les intrigues de la cour de Louis XIV, même si l'action a été déplacée un siècle plus tôt sous Henri II. Le livre publié, elle en constate le succès par cette drôle de formule « On est partagé sur ce livre-là à se manger ». Ce roman des passions maîtrisées semble déchaîner celle de ses lecteurs. Il va en tout cas propulser son auteur au panthéon des grands écrivains du XVIIe. Sa renommée va atteindre celle de ses camarades de plume, Racine, le vieux Corneille ou encore Nicolas Boileau. Ami proche de La Rochefoucauld, ce dernier aurait inspiré l'écriture de ce roman à Madame de Lafayette, un roman qui n'est autre qu'un véritable traité des passions de l'âme. En cette même année, paraît le deuxième volume des fables de Jean de La Fontaine, dont on vous a déjà parlé à deux reprises dans Écouter Réviser. Eh bien, on pourrait presque appliquer les mots du fabuliste à ce roman de Madame de Lafayette. « Ces fables, écrit-il, ne sont pas seulement morales, elles donnent encore d'autres connaissances. » En effet, si tout est moral dans la conduite de Mademoiselle de Chartres, ce sont aussi d'autres connaissances qui attendent les lecteurs. L'honnêteté de la princesse de Clèves, confrontée à l'amour qu'elle ressent pour Monsieur de Nemours, amour qu'elle s'avoue tout juste à elle-même, mais qu'elle ne laisse en aucun cas s'exprimer, par fidélité à ses principes, à l'éducation qu'elle a reçue de sa mère, et par respect pour son mari. Ce renoncement est d'autant plus fort pour le lecteur qu'il a accès à la vérité de ses sentiments à elle, à la vérité aussi de ses tourments, et qu'il découvre avec elle la force de séduction de Monsieur de Nemours. Un grand critique littéraire du XXe siècle, Georges Poulet, résume ainsi la situation « La princesse de Clèves est le récit d'une progression, non de la passion elle-même, mais des expériences successives qu'elle cause dans le cœur, mais des découvertes qu'elle fait faire à l'esprit ». À la cour du roi de France, les affaires de cœur n'ont aucun secret. Les passions ne peuvent se vivre à l'abri des regards puisque tout se sait et tout se dit. Dans l'extrait que vous allez entendre, il est question d'une lettre égarée par la princesse de Clèves. La reine exige qu'elle soit restituée. La princesse de Clèves va donc devoir la réécrire de mémoire pour clore l'incident. Extrait de la troisième partie de La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Ces pages vous sont lues par le comédien Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France.
Ils s'enfermèrent pour y travailler. On donna ordre à la porte de ne laisser entrer personne et on renvoya tous les gens de Monsieur de Nemours. Cet air de mystère et de confidence n'était pas d'un médiocre charme pour ce prince et même pour Madame de Clèves. La présence de son mari et les intérêts du vidame de Chartres la rassuraient en quelque sorte sur ses scrupules. Elle ne sentait que le plaisir de voir Monsieur de Nemours. Elle en avait une joie pure et sans mélange qu'elle n'avait jamais sentie. Cette joie lui donnait une liberté et un enjouement dans l'esprit que Monsieur de Nemours ne lui avait jamais vu et qui redoublait son amour. Comme il n'avait point eu encore de si agréable moment, sa vivacité en était augmentée, et quand Madame de Clèves voulut commencer à se souvenir de la lettre et à l'écrire, ce prince, au lieu de lui aider sérieusement, ne faisait que l'interrompre et lui dire des choses plaisantes. Madame de Clèves entra dans le même esprit de gaieté, de sorte qu'il y avait déjà longtemps qu'ils étaient enfermés, et on était déjà venu deux fois de la part de la reine dauphine pour dire à Madame de Clèves de se dépêcher, qui n'avait pas encore fait la moitié de la lettre. Monsieur de Nemours était bien aise de faire durer un temps qui lui était si agréable et oubliait les intérêts de son ami. Madame de Clèves ne s'ennuyait pas et oubliait aussi les intérêts de son oncle. Enfin, à peine à 4 heures, la lettre était-elle achevée et elle était si mal, et l'écriture dont on la fit copier ressemblait si peu à celle que l'on avait eu dessein d'imiter, qu'il eût fallu que la reine n'eût guère pris de soin d'éclaircir la vérité pour ne la pas connaître. Aussi n'y fut-elle pas trompée. Quelque soin que l'on prit de lui persuader que cette lettre s'adressait à M. de Nemours, elle demeura convaincue non seulement qu'elle était au vidame de Chartres, mais elle crut que la reine dauphine y avait part et qu'il y avait quelque intelligence entre eux. Cette pensée augmenta tellement la haine qu'elle avait pour cette princesse qu'elle ne lui pardonna jamais et qu'elle la persécuta jusqu'à ce qu'elle l'eût fait sortir de France. Pour le vidame de Chartres, il fut ruiné auprès d'elle. Et soit que le cardinal de Lorraine se fût déjà rendu maître de son esprit, ou que l'aventure de cette lettre, qui lui fit voir qu'elle était trompée, lui aida à démêler les autres tromperies que le vidame lui avait déjà faites, il est certain qu'il ne put jamais se raccommoder sincèrement avec elle. Leur liaison se rompit, et elle le perdit ensuite à la conjuration d'Amboise, où il se trouva embarrassé. Après qu'on eut envoyé la lettre à Madame la Dauphine, Monsieur de Clèves et Monsieur de Nemours s'en allèrent. Madame de Clèves demeura seule, et sitôt qu'elle ne fut plus soutenue par cette joie que donne la présence de ce que l'on aime, elle revint comme d'un songe. Elle regarda avec étonnement la prodigieuse différence de l'état où elle était le soir d'avec celui où elle se trouvait alors. Elle se remit devant les yeux l'aigreur et la froideur qu'elle avait fait paraître à Monsieur de Nemours, tant qu'elle avait cru que la lettre de Madame de Thémines s'adressait à lui. Quel calme et quelle douceur avait succédé à cette aigreur, sitôt qu'il l'avait persuadée que cette lettre ne le regardait pas. Quand elle pensait qu'elle s'était reprochée comme un crime le jour précédent de lui avoir donné des marques de sensibilité que la seule compassion pouvait avoir fait naître, et que par son aigreur elle lui avait fait paraître des sentiments de jalousie qui étaient des preuves certaines de passion, elle ne se reconnaissait plus elle-même. Quand elle pensait encore que M. de Nemours voyait bien qu'elle connaissait son amour, qu'il voyait bien aussi que, malgré cette connaissance, elle ne l'en traitait pas plus mal en présence même de son mari, qu'au contraire, elle ne l'avait jamais regardé si favorablement, qu'elle était cause que M. de Clèves l'avait envoyé quérir et qu'ils venaient de passer une après-dînée ensemble en particulier, elle trouvait qu'elle était d'intelligence avec M. de Nemours, qu'elle trompait le mari du monde qui méritait le moins d'être trompé, et elle était honteuse de paraître si peu digne d'estime aux yeux même de son amant. Mais ce qu'elle pouvait moins supporter que tout le reste était le souvenir de l'état où elle avait passé la nuit et les cuisantes douleurs que lui avait causées la pensée que M. de Nemours aimait ailleurs et qu'elle était trompée. Elle avait ignoré jusqu'alors les inquiétudes mortelles de la défiance et de la jalousie. Elle n'avait pensé qu'à se défendre d'aimer M. de Nemours et elle n'avait point encore commencé à craindre qu'il en aimât une autre. Quoique les soupçons que lui avait donnés cette lettre fussent effacés, ils ne laissèrent pas de lui ouvrir les yeux sur le hasard d'être trompée et de lui donner des impressions de défiance et de jalousie qu'elle n'avait jamais eues. Elle fut étonnée de n'avoir point encore pensé combien il était peu vraisemblable qu'un homme comme M. de Nemours, qui avait toujours fait paraître tant de légèreté parmi les femmes, fût capable d'un attachement sincère et durable. Elle trouva qu'il était presque impossible qu'elle pût être contente de sa passion. « Mais quand je le pourrais être, disait-elle, qu'en veux-je faire? Veux-je la souffrir? Veux-je y répondre? Veux-je m'engager dans une galanterie? Veux-je manquer à M. de Clèves? Veux-je me manquer à moi-même? Et veux-je enfin m'exposer au cruel repentir et aux mortelles douleurs que donne l'amour? Je suis vaincue et surmontée par une inclination qui m'entraîne malgré moi. Toutes mes résolutions sont inutiles. » Je pensais hier tout ce que je pense aujourd'hui et je fais aujourd'hui tout le contraire de ce que je résolus hier. Il faut m'arracher de la présence de M. de Nemours. Il faut m'en aller à la campagne, quelque bizarre que puisse paraître mon voyage. Et si M. de Clèves s'opiniâtre à l'empêcher ou à en vouloir savoir les raisons, peut-être lui ferais-je le mal, et à moi-même aussi, de les lui apprendre. Elle demeura dans cette résolution et passa tout le soir chez elle sans aller savoir de Madame la Dauphine ce qui était arrivé de la fausse lettre du vidame. Quand M. de Clèves fut revenu, elle lui dit qu'elle voulait aller à la campagne, qu'elle se trouvait mal et qu'elle avait besoin de prendre l'air. M. de Clèves, à qui elle paraissait d'une beauté qui ne lui persuadait pas que ses maux fussent considérables, se moqua d'abord de la proposition de ce voyage et lui répondit qu'elle oubliait que les noces des princesses et le tournoi s'allaient faire et qu'elle n'avait pas trop de temps pour se préparer à y paraître avec la même magnificence que les autres femmes. Les raisons de son mari ne la firent pas changer de dessein. Elle le pria de trouver bon que, pendant qu'il irait à Compiègne avec le roi, elle allât à Coulommiers, qui était une belle maison à une journée de Paris qu'il faisait bâtir avec soin. Monsieur Lesclèves y consentit. Elle y alla dans le dessein de n'en pas revenir si tôt, et le roi partit pour Compiègne, où il ne devait être que peu de jours. Monsieur de Nemours avait eu bien de la douleur de n'avoir point revu Madame de Clèves depuis cet après-dîner qu'il avait passé avec elle si agréablement et qui avait augmenté ses espérances. Il avait une impatience de la revoir qui ne lui donnait point de repos, de sorte que, quand le roi revint à Paris, il résolut d'aller chez sa sœur, la duchesse de Mercœur, qui était à la campagne assez près de Coulommiers. Il proposa au vidame d'y aller avec lui, qui accepta aisément cette proposition, et Monsieur de Nemours la fit dans l'espérance de voir Madame de Clèves et d'aller chez elle avec le vidame. Madame de Mercœur les reçut avec beaucoup de joie et ne pensa qu'à les divertir et à leur donner tous les plaisirs de la campagne. Comme ils étaient à la chasse à courir le cerf, Monsieur de Nemours s'égara dans la forêt. En s'enquérant du chemin qu'il devait tenir pour s'en retourner, il sut qu'il était proche de Coulommiers. À ce mot de Coulommiers, sans faire aucune réflexion et sans savoir quel était son dessein, il alla à toute bride du côté qu'on le lui montrait. Il arriva dans la forêt et se laissa conduire au hasard par des routes faites avec soin qu'il jugea bien qui conduisaient vers le château. Il trouva, au bout de ces routes, un pavillon dont le dessous était un grand salon accompagné de deux cabinets, dont l'un était ouvert sur un jardin de fleurs qui n'était séparé de la forêt que par des palissades, et le second donnait sur une grande allée du parc. Il entra dans le pavillon et il se serait arrêté à en regarder la beauté sans qu'il vît venir par cette allée du parc Monsieur et Madame de Clèves, accompagnés d'un grand nombre de domestiques. Comme il ne s'était pas attendu à trouver Monsieur de Clèves, qu'il avait laissé auprès du roi, son premier mouvement le porta à se cacher. Il entra dans le cabinet qui donnait sur le jardin de fleurs, dans la pensée d'en ressortir par une porte qui était ouverte sur la forêt. Mais voyant que Madame de Clèves et son mari s'étaient assis sous le pavillon, que leur domestique demeurait dans le parc et qu'il ne pouvait venir à lui sans passer dans le lieu où étaient Monsieur et Madame de Clèves, il ne put se refuser le plaisir de voir cette princesse ni résister à la curiosité d'écouter sa conversation avec un mari qui lui donnait plus de jalousie qu'aucun de ses rivaux. Il entendit que Monsieur de Clèves disait à sa femme « Mais pourquoi ne voulez-vous point revenir à Paris? Qui vous peut retenir à la campagne? Vous avez depuis quelque temps un goût pour la solitude qui m'étonne et qui m'afflige parce qu'il nous sépare. Je vous trouve même plus triste que de coutume, et je crains que vous n'ayez quelque sujet d'affliction. » « Je n'ai rien de fâcheux dans l'esprit, » répondit-elle avec un air embarrassé, « mais le tumulte de la cour est si grand, et il y a toujours un si grand monde chez vous qu'il est impossible que le corps et l'esprit ne se lassent, et que l'on ne cherche du repos. »« Le repos, » répliqua-t-il, « n'est guère propre pour une personne de votre âge. » Vous êtes chez vous et dans la cour, d'une sorte à ne vous pas donner de lassitude, et je craindrais plutôt que vous ne fussiez bien aise d'être séparé de moi. Vous me feriez une grande injustice d'avoir cette pensée, reprit-elle avec un embarras qui augmentait toujours, mais je vous supplie de me laisser ici. Si vous y pouviez demeurer, j'en aurais beaucoup de joie, pourvu que vous y demeurassiez seul et que vous voulussiez bien n'y avoir point ce nombre infini de gens qui ne vous quittent quasi jamais. « Ah, madame, s'écria Monsieur de Clèves, votre air et vos paroles me font voir que vous avez des raisons pour souhaiter d'être seul que je ne sais point, et je vous conjure de me les dire. » Il la pressa longtemps de les lui apprendre sans pouvoir l'y obliger. Et après qu'elle se fut défendue d'une manière qui augmentait toujours la curiosité de son mari, elle demeura dans un profond silence, les yeux baissés, puis tout d'un coup prenant la parole et le regardant, « Ne me contraignez point, lui dit-elle, à vous avouer une chose que je n'ai pas la force de vous avouer, quoique j'en ai eu plusieurs fois le dessein. Songez seulement que la prudence ne veut pas qu'une femme de mon âge et maîtresse de sa conduite demeure exposée au milieu de la cour. » « Que me faites-vous envisager, madame ? S'écria Monsieur de Clèves. « Je n'oserais vous le dire de peur de vous offenser. » Madame de Clèves ne répondit point. et son silence achevant de confirmer son mari dans ce qu'il avait pensé. « Vous ne me dites rien, » reprit-il, « et c'est me dire que je ne me trompe pas. » « Eh bien, monsieur, » lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, « je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. Mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donne la force. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour ou si j'avais encore Madame de Chartres pour aider à me conduire. Quelque dangereux que soit le parti que je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à vous. Je vous demande mille pardons. Si j'ai des sentiments qui vous déplaisent, du moins je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi et aimez-moi encore si vous pouvez. » Monsieur de Clèves était demeuré pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même, et il n'avait pas songé à faire relever sa femme. Quand elle eut cessé de parler, qu'il jeta les yeux sur elle, qu'il la vit à ses genoux, le visage couvert de larmes et d'une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur, et l'embrassant en la relevant, « Ayez pitié de moi vous-même, madame, lui dit-il, j'en suis digne, et pardonnez si dans les premiers moments d'une affliction aussi violente qu'est la mienne, je ne réponds pas comme je dois à un procédé comme le vôtre. Vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qu'il y a jamais eu de femme au monde, mais aussi je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été. Vous m'avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vu. Vos rigueurs et votre possession n'ont pu l'éteindre. Elles durent encore. Je n'ai jamais pu vous donner de l'amour, et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte? Depuis quand vous plaît-il? Qu'a-t-il fait pour vous plaire? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? Je m'étais consolé en quelque sorte de ne l'avoir pas touché par la pensée qu'il était incapable de l'être. Cependant, un autre fait ce que je n'ai pu faire. J'ai tout ensemble la jalousie d'un mari et celle d'un amant. Mais il est impossible d'avoir celle d'un mari après un procédé comme le vôtre. Il est trop noble pour ne me pas donner une sûreté entière. Il me console même comme votre amant. La confiance et la sincérité que vous avez pour moi sont d'un prix infini. Vous m'estimez assez pour croire que je n'abuserai pas de cet aveu. Vous avez raison, madame, je n'en abuserai pas. Et je ne vous en aimerai pas moins. Vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à son mari. Mais, madame, achevez et apprenez-moi qui est celui que vous voulez éviter. « Je vous supplie de ne me le point demander, » répondit-elle. « Je suis résolue de ne vous le pas dire, et je crois que la prudence ne veut pas que je vous le nomme. » « Ne craignez point, madame, » reprit Monsieur de Clèves. « Je connais trop le monde pour ignorer que la considération d'un mari n'empêche pas que l'on ne soit amoureux de sa femme. » On doit haïr ceux qui le sont et non pas s'en plaindre. Et encore une fois, madame, je vous conjure de m'apprendre ce que j'ai envie de savoir. Vous m'en presseriez inutilement, répliqua-t-elle. J'ai de la force pour taire ce que je crois ne pas devoir dire. L'aveu que je vous ai fait n'a pas été par faiblesse, et il faut plus de courage pour avouer cette vérité que pour entreprendre de la cacher. Monsieur de Nemours ne perdait pas une parole de cette conversation. Et ce que venait de dire madame de Clèves ne lui donnait guère moins de jalousie qu'à son mari. Il était si éperdument amoureux d'elle qu'il croyait que tout le monde avait les mêmes sentiments. Il était véritable aussi qu'il avait plusieurs rivaux, mais il s'en imaginait encore davantage, et son esprit s'égarait à chercher celui dont madame de Clèves voulait parler. Il avait cru bien des fois qu'il ne lui était pas désagréable, et il avait fait ce jugement sur des choses qui lui parurent si légères dans ce moment, qu'il ne put s'imaginer qu'il eût donné une passion qui devait être bien violente pour avoir recours à un remède si extraordinaire. Il était si transporté qu'il ne savait quasi ce qu'il voyait, et il ne pouvait pardonner à M. de Clèves de ne pas assez presser sa femme de lui dire ce nom qu'elle lui cachait. M. de Clèves faisait néanmoins tous ses efforts pour le savoir. Et après qu'il l'en eût pressé inutilement, « Il me semble, répondit-elle, que vous devez être content de ma sincérité. » « Ne m'en demandez pas davantage, et ne me donnez point lieu de me repentir de ce que je viens de faire. Contentez-vous de l'assurance que je vous donne encore qu'aucune de mes actions n'a fait paraître mes sentiments, et que l'on ne m'a jamais rien dit dont j'ai pu m'offenser. »« Ah, madame, » reprit tout d'un coup Monsieur de Clèves, « je ne vous saurais croire. Je me souviens de l'embarras où vous fûtes le jour que votre portrait se perdit. Vous avez donné, madame, vous avez donné ce portrait qui m'était si cher et qui m'appartenait si légitimement. Vous n'avez pu cacher vos sentiments. Vous aimez, on le sait. Votre vertu vous a jusqu'ici garanti du reste. Est-il possible, s'écria cette princesse, que vous puissiez penser qu'il y ait quelque déguisement dans un aveu comme le mien, qu'aucune raison ne m'obligeait à vous faire ? Fiez-vous à mes paroles. C'est par un assez grand prix que j'achète la confiance que je vous demande. Croyez, je vous en conjure, que je n'ai point donné mon portrait. Il est vrai que je le vis prendre, mais je ne voulus pas faire paraître que je le voyais de peur de m'exposer à me faire dire des choses que l'on ne m'a encore osé dire. Par où vous a-t-on donc fait voir qu'on vous aimait ? Reprit Monsieur de Clèves. Et quelle marque de passion vous a-t-on donnée ? Épargnez-moi la peine, répliqua-t-elle, de vous redire des détails qui me font honte à moi-même de les avoir remarqués et qui ne m'ont que trop persuadé de ma faiblesse. Vous avez raison, madame, reprit-il, je suis injuste. Refusez-moi toutes les fois que je vous demanderai de pareilles choses, mais ne vous offensez pourtant pas si je vous les demande.
Lecture de La Princesse de Clèves, signée Robin Renucci.
Écoutez, révisez les grands textes du patrimoine littéraire.
Et maintenant, l'analyse que nous en donnent les inspecteurs généraux et professeurs de l'éducation nationale. À ce moment-là du roman, deux épisodes célèbres se suivent et se complètent. Une intrigue de cour, tout d'abord. La lettre réclamée à Madame de Clèves va être l'occasion d'en rédiger une copie en compagnie de Monsieur de Nemours. Tout doit être mis en œuvre pour ne pas déroger à un ordre royal. Malgré tout, le stratagème est plaisant. Il est question de guetter sous la plume de l'auteur. Nos deux héros vont pouvoir vivre un moment rare de complicité, se laisser un peu aller, tout à la joie d'être ensemble. Cet épisode et ses suites, en tout cas, mettent en relief les aspects très romanesques de ce récit, trop souvent réduit à du psychologisme. La langue employée est très rigoureuse, ses expressions sont extrêmement précises, mais l'esprit du récit, lui, est passablement débridé. Tant et si bien que la lettre que les protagonistes doivent réinventer pâtit de leur complicité. Ils passent complètement à côté du message et le remède est pire que le mal pour la reine dauphine. Tout aussi romanesque et presque extravagante, la manière dont les personnages sont amenés à se retrouver dans le même pavillon à Coulommiers. Alors que Nemours souhaite retrouver Madame de Clèves, c'est au gré du hasard qu'il arrive dans la maison de campagne, puis dans le pavillon, puis se cache dans le cabinet. On se croirait dans une pastorale, voire dans les coulisses d'une pièce de Molière, à la différence qu'ici ce n'est pas le mari trompé, Orgon, Dandin, qui, dissimulé, assiste au dévoilement de la vérité, mais l'amant, celui qui aime, qui se retrouve témoin incognito d'une déclaration qui le concerne au premier chef. Madame de Lafayette dessine ici le portrait complet de trois personnages. Après la réécriture de la lettre et le réveil qui a suivi, la princesse ne se reconnaissait plus elle-même, écrit l'auteur. Son amour l'envahit, elle n'a d'autre choix que de quitter la ville, la cour, ses regards inquisiteurs. Ainsi est amorcée l'idée de la retraite hors du monde et de ses tentations, qui constituera le final du roman. Mais cette fuite dans un refuge naturel se refermera vite comme un piège, sûr et pour tous les personnages. Car il ne suffit pas de partir, il faut encore être honnête au sens classique du XVIIe siècle. Si l'idéal est porté par le devoir de refuser de se soumettre à la folie des passions, que devient cet idéal lorsqu'il est aussi malmené par le réel ? Entendez ici la charge morale à laquelle s'attelle Madame de Lafayette. Son roman s'engage dans une réflexion profonde sur l'humaine condition, notre psyché, ses dilemmes et ses ambiguïtés. Comment aimer, se dominer, être fidèle à soi-même, aux autres, dans un monde aussi changeant ? Le roman pose la question et ne propose aucune solution univoque. Dans la scène de l'aveu, par exemple, c'est en voulant dire à son mari son trouble et être donc pleinement honnête que la princesse contrevient en fait à ses principes. Parce qu'elle est incapable de lutter contre sa passion, elle se confie à son mari et l'emporte dans son tourment au lieu de l'en préserver. Monsieur de Clèves en conçoit une jalousie toute légitime qui, pour la première fois dans le roman, va le rendre assez touchant aux yeux du lecteur. Suite à cet aveu, il s'en va, le cœur pénétré d'une douleur mortelle. Madame de Clèves va plonger dans un remords si profond qu'elle restera fidèle à son mari par-delà sa mort, fidèle aussi à sa résolution de ne pas donner le nom du rival. Un homme heureux lui plaît, voilà ce qu'elle dit. Monsieur de Nemours se reconnaîtra un peu plus tard dans le roman, dans ce portrait qui est fait de lui. Il a d'ailleurs assisté à toute la scène. Arrêtons-nous un instant sur ce dispositif, celui de l'amant dans le placard. Malgré un sentiment de déjà-vu, il s'étoffe ici d'une portée assez nouvelle. Comme au théâtre, il permet les énonciations multiples. Il y a ce qui se donne à voir et ce que les personnages, eux, ne voient pas ou que de façon partielle. L'artifice du voyeur montre une héroïne toujours dépendante d'un témoin, même au moment où elle s'y attend le moins. D'autant que la scène va se répéter plus tard dans le roman. Dans ce même pavillon, Monsieur de Nemours observera la princesse jouer avec les rubans et la canne d'Inde, et à nouveau à son insu. À deux reprises, le regard de l'indiscret s'immisce en elle. En répliquant ce même dispositif, Madame de Lafayette dresse un constat désenchanté sur notre capacité à préserver ce à quoi l'on tient. Comment garder intacte la pureté d'un amour? Comment s'extraire du jugement des autres? Une méditation très actuelle. Il n'est pas rare aujourd'hui aussi de voir son image et ses mots confisqués, la tutelle du regard des autres s'exercer partout. Pour conclure, à l'image d'un classique qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire selon la belle formule d'Italo Calvino, ce passage laisse le lecteur libre de le prolonger comme il l'entend. Madame de Lafayette choisit pour son roman un chemin âpre et sans retour, puisque l'héroïne, malgré ses efforts, ne fait que buter sur ses propres imperfections, puisque le monde est trop pesant, alors il faut s'en retirer. Cette césure marque aussi la fin d'un héritage héroïque en permettant au roman d'accéder à un début de modernité, cet anti-idéalisme qui se fonde, comme le récit, sur des illusions perdues, marque la naissance d'un genre autonome que l'on retrouvera chez Balzac, Flaubert ou le Proust d'un amour de Swann, et fait de la lecture un espace de résistance, un lieu retiré du monde où l'on peut voir sans être vu. Alors maintenant, tous à vos livres. C'était Écouter, réviser, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale. Un grand merci à Patrick Laudet qui a supervisé cette programmation, à Renaud Ferreira de Oliveira, inspecteur général, et Laurent Becbédé, professeur, qui ont préparé l'analyse du jour. Lecture signée Robin Renucci, coordonnée par Blandine Masson, réalisée par Sophie Haute-Picon, avec Mathieu Tourin à la technique. Mise en onde, Thomas Duterre. Sur franceculture.fr, vous pouvez retrouver toutes les informations en lien avec l'émission. Merci à Laura Dutèche-Pérez qui s'occupe de la page du site. À demain et très bel après-midi sur France Culture.